Bonjour à toutes et tous, spécialement du coup à ceux qui viennent pour la première fois à ce format de Wiki Café. Pour rappeler du coup, pour expliquer un petit peu ce format et le principe des résidences Wikimedia, donc nous sommes trois co-organisateurs de ces Wiki Cafés. Donc Hugo Lopez qui est Wikimédien en résidence à l'URFIS de Toulouse, Pierre-Yves Baudouin, qui est Wikimédien en résidence à l'URFIS de Bordeaux, et moi, donc, qui suis donc Juliette Halimi, et je suis en résidence à l'URFIS de Rennes. Et donc, en fait, les résidences Wikimédia sont issues d'une collaboration entre le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et l'association Wikimédia France. Donc, c'est un projet qui dure sur un an. On a commencé en février dernier jusqu'en février prochain. Et qui a pour but du coup de renforcer les liens entre l'enseignement supérieur et la recherche et les projets Wikimédia. Et donc on essaye de tisser des liens entre ces projets Wikimédia et la communauté universitaire, avec un fort accent qui est mis sur la promotion de la science ouverte, donc le partage, la diffusion des résultats scientifiques au plus grand nombre. C'est un peu dans cet esprit-là qu'on effectue ces résidences du coup au sein des URFIST. Alors, je ne sais pas si tout le monde connaît les URFIST. Les URFIST, c'est les unités régionales de formation à l'information scientifique et technique qui se trouvent du coup en université et qui font des formations à des publics très variés. Ça va des chercheurs aux bibliothécaires, aux ingénieurs de recherche et d'études, etc., autour de ces questions d'information scientifique. Donc ça, c'est pour le côté résidence Wikimédia et nos missions. Et on a mis en place plusieurs actions collectives, nous trois, dont ce format des Wiki Cafés qu'on a lancé du coup en avril dernier, si je ne m'abuse, et qui permet du coup de se retrouver en fait deux fois par mois. Donc c'est tous les premiers et troisièmes mardis du mois, pendant 1 heure sur le temps du déjeuner de 13 à 14 heures. Et donc l'idée de base de ces Wiki Cafés, c'était de permettre un espace de rendez-vous entre les personnes intéressées par ces questions de projets Wikimédia, de sciences ouvertes dans la communauté universitaire et nous, et du coup qu'on puisse échanger, nous, sur nos actualités, sur ce qu'on propose, et que les bibliothécaires, les chercheurs, etc., puissent nous poser des questions et aussi parler d'éventuels projets qu'ils auraient en mobilisant les projets Wikimédia. Donc voilà pour une présentation de ce format. Et donc on a décidé ce semestre-ci, d'ajouter une nouveauté à ce format, qui est de recevoir une fois par mois des intervenants extérieurs. On espérait du coup toucher un public peut-être un peu plus large, ce qui du coup est un peu réussi vu qu'on a de nouvelles personnes aujourd'hui. Et donc, l'idée, c'est que ce semestre, on va proposer du coup 4 rencontres avec 4 invités différents, qui vont du coup nous permettre ce format un petit peu plus webinaire que d'habitude. Du coup, une fois par mois sur 4 mois. Et du coup, on reçoit aujourd'hui Sylvain Machefer, qu'on a le plaisir de recevoir aujourd'hui. Et donc, je vais te laisser la parole, Hugo, pour introduire le sujet de ce webinaire qui est le label Culture Libre, et donc commencer la discussion avec Sylvain sur ce sujet.
Voilà, bonjour à tous. Est-ce que ma caméra est démarrée? Oui, c'est bon. Donc, bonjour à tous. Nous accueillons aujourd'hui Sylvain Machefer, que je vais vous présenter rapidement. Donc, c'est un Wikipédia inscrit sous le nom de SYMAC, SYMAC, depuis le 5 janvier 2004. C'est un administrateur depuis le 6 juin 2004. Assez rapide, ça fait un peu, donc 19 ans. Membre de Wikimédia France depuis 2009. SYMAC est également bibliothécaire à la Bibliothèque universitaire de Bordeaux-Montaigne. Auteur et co-auteur d'une vingtaine de documents sur Wikimédia et les bibliothèques institutionnelles, donc universitaires. Via cette double ca casquette de Wikipédien et de bibliothécaire dans les institutions, Sylvain Machefer est un membre structurant de la CUBAL, donc la Cabale bordelaise, une communauté IRL secrète et ouverte à tous des Wikipédiens bordelais. SYMAC nous parlera aujourd'hui de son expérience entre institutions universitaires et en faisant lien avec l'encyclopédie libre qu'est Wikipédia. Nous suivrons notamment l'une de ses dernières actions de rapprochement ayant piloté la candidature de la Bibliothèque universitaire de Bordeaux et l'obtention du label Culture Libre par celle-ci. Le label Culture Libre est un label, c'est-à-dire une certification délivrée par une organisation crédible dans son champ, dans notre cas, le milieu de la culture libre et l'association Wikimedia France. Une grille d'évaluation permet aux institutions candidates d'auditer et de sourcer leurs actions en matière de culture libre. Sylvain, nous sommes très heureux de t'accueillir parmi nous aujourd'hui et je te laisse donc la parole.
Merci Hugo. Donc voilà, tu as à peu près résumé mon parcours et l'université Bordeaux-Montaigne, donc est celle à laquelle j'appartiens. Donc on a plusieurs universités à Bordeaux. Donc nous, c'est l'université Bordeaux-Montaigne qui est la fac de lettres et sciences humaines, donc avec 18 000 étudiants et 600 enseignants-chercheurs à peu près. Donc c'est une petite université à l'échelle de ce qu'on peut connaître aujourd'hui en France. Et c'est une université, on a de la chance par rapport au label Culture Libre, qui est assez réceptive aux principes qu'on a pu évoquer de commun de la connaissance, etc. Et donc, moi, je suis arrivé en 2009 à Bordeaux-Montaigne. J'ai pris mes marques dans l'université. Et puis, assez peu d'années après, donc on a lancé notre bibliothèque numérique, donc, qui s'appelle 1886, qui est une bibliothèque numérique patrimoniale. Et on a la chance d'être un petit peu entre la toute petite institution et la grosse institution qui a toutes ces problématiques de juristes, etc. Donc nous, je pense qu'on était à la bonne échelle pour ça et on a pu, au sein des bibliothèques, à cette époque, donc 2012, dire qu'on souhaitait que les conditions générales d'utilisation de notre bibliothèque numérique soient les plus ouvertes possibles. Donc c'est des ouvrages du domaine public. On n'en a pas des masses, mais on en a quand même un certain nombre. Donc, c'est des œuvres du domaine public qu'on a numérisées, qu'on a diffusées. Et dès le départ, on a fait en sorte d'utiliser la public domaine marque ou l'équivalent à l'époque, mais en tout cas de bien faire en sorte qu'il n'y ait pas de restrictions. Et 2012, pour ceux qui s'en souviennent, c'est une époque où les bibliothèques numériques étaient encore nombreuses à avoir des restrictions d'usage commercial, des restrictions sur des usages particuliers, etc. Alors, ça n'a pas disparu totalement, mais aujourd'hui, on est quand même un peu. On a quitté un peu ce monde du copy fraud qu'on pouvait connaître à l'époque, de manière générale. Et donc, 2012, c'était le début. Ça nous a permis donc d'avoir un matériau déjà sur lequel travailler, qui étaient ces œuvres du domaine public sur lesquelles on mettait pas de restrictions. Et quelques années après, alors j'ai pas révisé toutes les dates exactement, mais quelques années après, la première action qu'on ait menée en lien avec les projets Wikimedia, ça a été de prendre un fonds de notre bibliothèque numérisée, donc on avait numérisé des images d'un archiviste qui s'appelle Jean-Auguste Brutheis, qui était un archiviste du coin. On avait des plaques de verre qu'on avait numérisées, qu'on avait mises en ligne, et notre seul élément descriptif, c'était un cahier d'écolier où on avait un numéro de plaque et puis un nom de ville en général. Donc en interne, nous, on avait déjà bien dégrossi le travail en identifiant. Il a photographié principalement des monuments religieux. Donc, on a identifié la plupart des églises, etc. Mais on avait tout un tas de monuments sur lesquels on n'avait aucune identification précise. Et donc, ce qu'on a proposé à notre direction, ça a été de basculer tout ça sur Wikimedia Commons et de faire appel à la communauté. Donc, tout à l'heure, Hugo a parlé de la Cubal, donc ce groupe bordelais de Wikipédiens assez actifs et intéressés par ces sujets-là en plus pour une partie. Et donc, on a fait appel à eux et à d'autres Wikimédiens hors de Bordeaux en leur disant, voilà, on a des photos qui ne sont pas identifiées. Est-ce que collectivement, on est capable de faire avancer un petit peu cette description? Donc, ça a plutôt bien fonctionné. On a énormément de photos. Voilà, c'était parfois une photo d'un retable dans une église dont on n'avait aucune idée de l'église que ça concernait. Et des Wikipédiens qui étaient spécialistes du sujet ont été capables de nous dire quelle église, dans quel village cette photo était prise. Et nous, on a réintégré ça dans notre bibliothèque numérique. Donc, c'était vraiment voilà, gagnant-gagnant sur tous les plans. On a des photos mieux décrites aujourd'hui. Et à côté de ça, on a un fonds qui est venu alimenter Wikimedia Commons, qui a gagné aussi en visibilité, parce que des photos du début du XXe siècle d'églises girondines, bah, c'est un matériau qui est totalement adapté et très facile à réutiliser sur les projets Wikipédia, enfin sur le projet Wikipédia en particulier. Donc ça, c'était la première étape. Et puis après, on a eu la chance, alors d'avoir, j'ai plus les dates exactes pareilles, mais un directeur qui a pris la suite, qui était très très motivé par les projets libres, qui est devenu un contributeur relativement régulier à Wikipédia et donc qui nous a, on va dire, pas laissé carte blanche, mais en tout cas nous a laissé beaucoup de latitude par rapport à ses projets. Donc à partir de là, on a commencé, alors j'avais noté les dates, voilà, 2017, on a commencé à participer à One League One Rêve. Donc pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est un événement international qui, pendant 3 semaines tous les ans, pas enfin, 2 fois par an d'ailleurs, incite les bibliothécaires et les professionnels de l'information à participer à Wikipédia à travers l'ajout de références. Alors, c'est le point d'entrée. Ça peut être beaucoup plus vague et beaucoup plus large, pardon, et des universités ont fait d'autres choses, mais nous, en 2017, on a commencé ça, et depuis tous les ans, on a fait en sorte que les collègues, enfin une partie des collègues, bien sûr, parce qu'on est un service où il y a 80 personnes à peu près, donc tout le monde ne prend pas le temps ou n'a pas l'intérêt pour participer à Wikipédia, mais tous les ans, on a quelques collègues qui viennent découvrir Wikipédia, faire leur première modification sur Wikipédia et voir comment ça fonctionne et surtout en tant que professionnel de l'information, devenir un petit peu plus compétent sur cet outil qui est utilisé par tous nos publics et que malheureusement pas mal de bibliothécaires aujourd'hui encore ne connaissent que de très loin. Donc là, en incitant les collègues à participer, eh bien, on leur fait mettre la main dans Wikipédia et voir comment est-ce qu'on contribue, comment est-ce qu'on modifie et ça permet de discuter entre nous et d'aborder tout un tas de sujets qu'on n'aurait peut-être pas abordés d'une autre manière. Donc voilà, le dépôt des images sur Commons, One Libre One Rêve pour les collègues. Ensuite, on a aussi eu pas mal. Ouais, je me dépêche. On a ensuite eu pas mal de. On intègre ça dans les formations. On fait de la formation documentaire aux étudiants. Donc, on a des modules où on met du Wikipédia. On a aussi des masters où on a fait des modules dédiés à Wikipédia avec contribution des étudiants sur Wikipédia, etc. Bref, on a tout un tas de choses où on a mis du Wikipédia. Et ce qui nous a permis, du coup, pour revenir au sujet d'aujourd'hui, lorsque Wikimedia France et les partenaires ont lancé le projet Culture Libre, de se dire bah, finalement, tout le boulot qui était lié au projet Culture Libre, on l'avait fait avant, on avait déjà des actions menées finalement. Le pas qui était à franchir pour bénéficier de ce label et gagner en visibilité et surtout gagner en reconnaissance vis-à-vis de nos tutelles, eh bien, il n'était pas énorme parce que voilà, le label Culture Libre, donc on en a parlé rapidement tout à l'heure, il y a 3 niveaux, il y a un niveau bronze, argent et or. Avec chacun, donc le lien a été mis dans le chat, je vous invite à regarder sur les pages de présentation ce qu'il y a. Chacun est bien sûr de plus en plus exigeant. Mais dès le départ, quand on a regardé un petit peu les exigences, on se rendait compte qu'avec ce qui avait déjà été fait, en relistant un petit peu toutes les actions qui avaient été menées, finalement, l'Université Bordeaux-Montaigne pouvait prétendre sans trop de risques, on va dire, au label bronze. Donc on a relisté tout ça. Et le principe, c'est on candidate, enfin on fait mention de son souhait de candidature au jury du label. En tout cas, c'est comme ça que ça se passait l'an dernier. On reçoit en retour, alors on candidate, enfin on pré-candidate, on va dire, par la signature d'une charte de mémoire. Il y a voilà, une page complète où il faut qu'une personne alors, responsable, on va dire, de l'établissement signe pour dire que voilà, l'établissement est déjà engagé dans une démarche et souhaite la faire reconnaître, etc. On envoie ce document au jury qui, en retour, nous envoie un dossier. Donc c'est un PDF de quelques pages. J'ai plus en tête le document complet, mais ça faisait voilà, ça faisait une vingtaine de pages, mais c'est beaucoup de formulaires, donc c'est pas non plus très très long à remplir. En tout cas, à l'époque, on n'y avait pas passé des jours, mais Hugo pourra compléter parce que lui, il est plus dedans actuellement et qui liste justement par thématique et par niveau d'exigence ce qu'on a fait, des éléments qui montrent ce qui a été fait. Donc nous, on avait lié vers les catégories Commons où on avait déposé des images, les dashboards qui sont les outils de suivi des contributions à One Libre One Ref, et puis présenter un petit peu tout ça. On a envoyé notre dossier de candidature et quelques mois après, on a eu la bonne surprise d'avoir été retenu. Donc au niveau qu'on exigeait, alors il y a d'autres établissements qui avaient candidaté à un niveau et qui ont été rehaussés par le jury qui les a fait passer au niveau du dessus. Nous, on a candidaté au niveau argent, on a eu le niveau argent, donc on était très contents. Le niveau or, après, c'est quand même un engagement bien plus important par rapport à ce qu'on faisait déjà. Donc, c'est un petit peu éventuellement la suite. Mais voilà, c'est plutôt des choses où ça veut dire éventuellement avoir un Wikipédia en résidence, mener des actions vraiment plus poussées autour des projets. Donc peut-être que on n'en est pas loin, mais pour l'instant, on n'était pas prêt. En tout cas, on n'avait pas la prétention d'avoir atteint ce niveau. Donc l'intérêt aussi de ce label, c'est que c'est finalement une incitation à promouvoir encore plus les projets, à travailler encore plus sur les projets. Et c'est quelque chose qui, par rapport aux équipes politiques, aux équipes dirigeantes, ça fait sens, c'est simple. Il n'y a pas, voilà, on ne leur envoie pas un fichier de X pages de long où on liste ce qu'on a fait, etc. Là, on leur dit, voilà, il y a un label qui existe, qui est porté par une association reconnue et par différents acteurs. On souhaite y candidater. Et ensuite, on revient vers eux en disant, ben voilà, on a eu le label. Et là, on a eu des réponses de tout un tas de VP dont on a rarement de réponses, étonnamment et de manière très, très satisfaisante. Là, on a eu des mails de retour qui se félicitaient qu'on ait eu ce label, etc. Donc, ce n'est pas tombé à la meilleure période pour nous parce que le chantier en le campus, pardon, est en chantier depuis 3 ans, on est en train de réouvrir, etc. Donc, en termes de communication, on avait énormément de choses à mettre sur nos sites web. Pour maintenir, pour tenir au courant nos étudiants des avancées du chantier. Donc, on a fait une actu sur le sujet, mais au-delà de ça, on n'a pas non plus communiqué plus que ça. Mais déjà, cette actu a été vue, nous a permis d'avoir des retours, etc. Donc, c'était assez positif. Donc, vraiment, si dans vos établissements, vous souhaitez. Voilà, bah Benjamin, mon collègue, vient de la mettre dans le chat le lien vers cette actu qui nous a permis de valoriser un petit peu tout ça. Mais voilà, si dans vos établissements, c'est quelque chose que vous souhaitez aborder, vraiment n'hésitez pas. Encore une fois, le formulaire, ça demande un petit peu de temps de remplissage, mais si vous avez déjà des actions, et enfin nous, le fait de se lancer dans ce label nous a donné l'occasion de tout remettre à plat et de se rendre compte qu'en fait, il y avait plein de choses qu'on avait peut-être oubliées, parce que voilà, le versement des photos sur Commons, ça avait bientôt 10 ans et on était passé à autre chose. Mais voilà. Quand on repense à tout ça, on se rend compte que pour un établissement qui s'est inscrit dans cette dynamique depuis plusieurs années, il y a forcément tout un tas de choses qui se font et qui peuvent être valorisées parce que je ne sais pas si j'ai ici les enjeux du label, mais voilà, il y a des indicateurs qu'il faut cocher sur la diffusion des contenus, le fait de ne pas mettre de restrictions, donc ce que je disais au début. Les histoires de téléchargement à haute définition, donc ça, nous, ce qu'on avait fait aussi dès le départ, la participation au projet, la communication autour de tout ça. Donc, vous le verrez sur le site web, mais vraiment, le nombre d'indicateurs disponibles fait que, à mon avis, il y a pas mal d'établissements qui peuvent y prétendre. Et de mémoire, alors, je ne sais plus, il y en a qui seront sûrement mieux que moi, mais l'an dernier, il y avait une quinzaine d'établissements, pas loin, qui avaient candidaté. Donc, voilà, c'était assez large. Alors, peu dans le monde universitaire, beaucoup plutôt dans les musées, la lecture publique, etc. Mais le monde universitaire, sur tout ce qui est formation et ce genre d'action, à mon avis, peut faire valoir pas mal de choses. Voilà, j'ai fait un tour rapide. Je pense qu'après, on peut rebondir, échanger sur ces sujets-là. Ce sera peut-être le plus pertinent. Et puis, Hugo, tu peux peut-être compléter sur toi sur le remplissage du formulaire dans lequel tu es actuellement.
Alors, j'ai noté plusieurs points qui m'intéressaient dans ce que tu as dit. De manière, je vais d'abord peut-être rebondir sur ton expérience. J'ai trouvé intéressant que ton institution que je suis depuis un moment, vu que je suis aussi bordelais, je connais CIMAC des années 2000, où la Cubal ne portait pas encore ce nom, donc la communauté bordelaise ne portait pas encore ce nom, parce qu'on était à peu près trois Wikipédiens à l'époque. Donc il n'y avait pas besoin d'un groupe quand on est aussi peu nombreux. Qui m'a un peu surpris, c'est que pour moi, ta bibliothèque, c'est la bibliothèque en France, vu que je suis bordelais, c'est ce que je suis, et la bibliothèque qui fait le plus de choses. Donc je pensais que tu avais visé l'or, vous avez visé l'argent. Je trouve ça aussi intéressant parce que. De notre point de vue, en fait, à Toulouse, je fais un peu comparatif, on a pris le label, en fait, pour nous motiver à faire des choses. Donc, c'est pas la même dynamique. On a eu un temps long. Je suis arrivé en février. Ma boss m'a dit, il y a ce label qui sort, ça pourrait être intéressant pour notre institution. Et là, on a commencé à frapper aux portes, à demander le soutien de la hiérarchie, et d'abord à demander le soutien de la hiérarchie, ensuite à faire obtenir ce soutien. Et donc, je mène le changement dans mon institution et on vise l'or. On n'est pas sûr de l'avoir, mais c'est ce qu'on vise. Dans ton cas, tu es parti d'un acquis, d'une institution qui est déjà dynamique dans le domaine, et tu as regardé quel cache vous cochiez, si je comprends bien. Et donc, vous avez candidaté à l'arbre. J'avais pas pensé à cette approche-là, aussi parce que toutes les institutions, en fait, il y a des institutions dynamiques comme la tienne, qui ont déjà des choses, et ensuite, il y a les institutions comme la mienne, où la problématique, c'est que quand on discute avec les agents, ils ont les valeurs du libre, on est dans le service public, nos agents, quand je leur demande si je peux copier leur texte, aucun problème, tu en fais ce que tu veux, l'important c'est que ça circule, etc. Mais quand on regarde les petits textes légaux, en fait, les CGU disent bien tous les textes sont la propriété exclusive de l'Université de Toulouse, etc. Donc il faut tout changer. Je simplifie un petit peu, mais il y a quand même beaucoup de choses à changer. Donc, pour nous, la candidature au label, ça a été faire venir dans l'institution une contrainte extérieure qui permettait de remettre en mouvement notre institution. Donc ça, c'est intéressant. Je me pose la question, donc apprenant que vous avez candidaté au modèle argent, tu as l'air de sous-entendre que chez vous, ça a démarré une réflexion de relancer des actions, notamment l'import d'images, ce genre de choses, mais que lors de la candidature, en fait, vous avez fait une candidature en quelque sorte sur les acquis, avec une réflexion de il faut se remettre en mouvement. C'est ce que
Alors,
je perçois, mais est-ce que tu peux
en fait,
m'éclairer là-dessus?
la candidature aussi, on l'a faite sur Label Argent parce qu'on n'a pas pris le temps comme toi de commencer longtemps en arrière. En fait, c'était l'an dernier à la Wikiconvention, donc c'était en octobre de mémoire. Et voilà, j'en ai discuté. On m'a dit, ah bah tiens, il y a ça, il y a une présentation, je ne sais plus de qui, bah, Xavier peut-être, qui présentait ça à la Wikiconvention. Et je me suis dit, bah tiens, c'est vrai qu'on est passé à côté. Et en effet, quand il l'a présenté, je me suis dit qu'il y a pas mal de cases qu'on remplissait déjà. Et donc voilà, quand on a regardé, on s'est dit, bon, c'est la première année, on voit, et l'avantage aussi de candidater au argent, c'est que ça nous laisse une marge de progression et la possibilité de relancer des actions. Après, comme je l'ai dit, voilà, on était en chantier, là, ça fait 3 ans que le campus, c'est un peu compliqué, donc on a mis en stand-by pas mal de choses, mais voilà, là, tu vois, je viens de reprendre le label or que j'avais pas repris récemment, mais voilà. C'était plutôt dans le label or. Alors après, c'est peut-être aussi qu'on s'est freiné, on n'a pas osé y aller. Mais.
Après, votre temporalité est courte. Je calcule
Ouais.
octobre-février. Les candidatures, je crois que c'est le 15 février.
Ouais, c'est ça. J'ai revu tout à l'heure,
Voilà.
c'était en février,
C'est
en
le
tout cas.
15 février.
Ouais.
Donc tu dis octobre, novembre, décembre, janvier. Vous aviez
Et.
5 mois. J'en ai 12.
Ouais.
C'est
Et
pas la même temporalité.
là-dedans, on a d'abord attendu le retour du politique pour valider qu'ils étaient d'accord pour aller là-dessus. Mais après, voilà, tu vois, indicateur or, ils mettent intégration formelle de la contribution dans un programme de plan d'action. Nous, on n'en est pas là. En effet, c'était acté. On fait One Libre, One Rêve tous les ans. Mais je ne crois pas me tromper en disant que personne n'a ça dans sa fiche de poste. Enfin, en tout cas, le principe des communs, etc. Donc, il me semble aussi que l'intérêt qu'on avait à garder l'argent, à partir sur l'argent et à se garder la marge pour l'or, c'est le jour où on a le temps de s'occuper de ça, eh bien on dit, voilà, on veut candidater au label or, et vu la réception qu'on a eue du monde politique par rapport au argent, on peut imaginer que ça les intéresse, même si l'équipe pourra sûrement changer d'ici là, mais qu'en tout cas, ça trouve une oreille réceptive à ce niveau-là. Et on leur dit, bah voilà, si on veut passer au label or, la marche pour aller plus loin, c'est on inscrit ça dans les fiches de poste, ou en tout cas, on a des agents dont l'activité peut tourner autour de ça. C'est aussi ça l'intérêt. Après, voilà, or, on l'aurait peut-être eu, je ne sais pas, mais là, maintenant, on peut en tout cas imaginer aller plus loin et garder ça comme levier pour porter des projets. Parce qu'en plus, il se trouve qu'accessoirement, là, récemment, notre directeur qui était très. Notre directeur de service, donc de bibliothèque, est parti cette année. Donc on attend son remplaçant ou sa remplaçante en janvier. Voilà, à ce moment-là, on verra. Et peut-être qu'en effet, si c'est quelqu'un qui est moins porté sur ces sujets-là, peut-être qu'on lui dira, bon, on a vu le label argent l'an dernier, si on veut l'année suivante monter et encore se faire valoir auprès de l'équipe politique, Voilà ce qu'il nous reste à faire. On change quelques fiches de poste, on valide quelques petites choses. La différence n'est pas énorme, mais voilà, ça nous permet de garder ça sous la main.
Pour rebondir dans le même sens et argumenter dans le même sens, de mon côté, bon, bien entendu, je pense qu'on est parti à peu près, et je suis même pas sûr qu'on était, quand je suis arrivé, mon institution était au niveau bronze, voire inférieur. Par exemple, toutes nos CGU sont avec, tous nos textes sont sous droit d'auteur, etc. Et ça, c'est le niveau bronze, c'est l'élémentaire de la culture libre. Mais on vise le niveau or, donc ça fait un an que je fais des formations, que je mène le changement dans mon institution. Mais du côté or, une fragilité que j'ai, c'est effectivement au niveau politique, les créations de postes, comme tu dis, où c'est un engagement plus long terme et il faut co convaincre en haut. Donc c'est quelque chose de problématique aussi. Là, je décale un petit peu, mais c'est quelque chose dont il faut également discuter. Dans sa conception, le label culture libre, la lecture que j'en ai, il me semble que tu l'as un petit peu abordé. Le label culture libre a deux biais de jeunesse, j'aurais envie de dire. Il est très orienté glam et pas forcément orienté université. Alors que les universités sont aussi des créateurs de contenu qui doit être libre. Plutôt dans le sens science ouverte, ou vulgarisation de la science ouverte surtout, qui là devient de la culture libre. On a des services dans l'Université de Toulouse qui font de la vulgarisation. Et ces services devraient être sous Creative Commons, CC BY, ce genre de choses. On a aussi, bien entendu, des services de documentation, des bibliothèques, des services comme ça, mais qui sont des bibliothèques universitaires, donc on est un peu à cheval sur les deux mondes. Il y a ce biais-là, il y a aussi dans sa rédaction, notamment le formulaire de candidature, donc ce qu'on remplit et qu'on poste en février, enfin, le document final, il est très orienté Wikipédia, Wikicommons, Wikimedia, et ça c'est un peu Wikimedia France qui tire la couverture à soi. Dans l'idée, et c'est aussi l'écho que j'ai eu, je ne sais plus t'en parler, des jurys, avec qui est-ce que j'ai discuté de ça. Mais les jurys du label, ah oui, c'est un bibliothécaire qui a été à la cérémonie de l'année dernière, un bibliothécaire toulousain, qui me disait qu'en fait le jury est plus ouvert que le document fourni par Wikimedia France. Le document Wikimedia France, je ne sais pas si je peux partager mon écran. Non, mais j'ai pas forcément le document exactement sous la main. Mais le document qu'on poste à Wikimedia France pour la candidature finale, dans chaque champ à remplir, il y a est-ce que vous contribuez à Wikipédia? Est-ce que vous contribuez? Comment votre institution contribue à Wikipédia? Comment votre institution contribue à Wikicommons? Comment, etc. Et en fait, dans la réalité des faits, le jury qui n'est pas de l'association, ce ne sont pas des salariés de l'association Wikimedia France, ont plus de tolérance. Et si vous contribuez au commun libre, sans être Wikipédia, sans être Wikimedia Commons, votre candidature est également validée. Et ça, c'est l'idée d'un label culture libre. La culture libre, ce n'est pas que Wikipédia. En tant que membre de l'association et en tant que militant du libre, je ne veux pas défendre uniquement Wikipédia ou Wikimedia Commons ou Wikimedia France. Toute mise en licence libre, donc dans la culture libre, est intéressante. Et les échos que j'ai, c'est aussi quelque chose d'intéressant, et j'espère que Wikimedia France va un petit peu corriger le tir, c'est que toute action envers favorable au commun numérique libre est valorisée par et valide dans cette labellisation. Voilà, ça c'est du pratique comparé à du déclaratif du label. Tu me suis
Oui,
là-dessus, Sylvain?
et je te confirme, parce que là, je suis en train de reprendre le dossier que nous, on avait
Ah,
soumis,
d'accord.
et il y a bien un élément. Nous, il y a une des entrées donc, qui s'appelle option 4.3. À l'époque, c'était participation aux actions de promotion du libre accès et de l'open content. Et nous, l'exemple qu'on a mis là-dessus, c'est notre portail EHAL, donc la plateforme d'archives ouvertes, et en disant qu'on a signé une déclaration d'engagement en faveur de l'open access, qu'on incite les chercheurs à déposer, etc. Donc là, voilà. Alors, il y a beaucoup de points, en effet, et c'est surtout ce dont j'ai parlé autour de Wikipédia, Wikimedia Commons, etc. mais on n'a pas exclu HAL, et sachant qu'après, on essaie aussi, nous, dans le cadre de OneLibOneRef, pour boucler la boucle, d'utiliser les publications des chercheurs pour aller référencer des articles et aller ajouter des notes de bas de page en fonction de ce qui est publié par nos chercheurs. Donc essayer aussi de valoriser et d'avoir une émulation autour de ça.
Là, j'ai récupéré le dossier de candidature pour le label or. Et par exemple, je peux vous citer des champs. Il y a critère 3, intégrer la contribution au projet Wikimedia. Un autre, c'est intégrer la contribution. Ah, attendez. Au critère Wikimedia. Avoir un Wikimedia en résidence. Ensuite, c'est diversité des projets Wikimedia impliqués dans les actions. Donc, c'est très Wikimedia, Wikimedia. Et ça, c'est dans les mots qu'ils emploient, ils tirent un peu la couverture à eux. Mais dans les faits, le jury qui n'est pas salarié de Wikimedia France est plus ouvert. C'est intéressant. Il y a ça. Sinon, est-ce que quelqu'un a d'autres questions? Je pense en avoir eu d'autres. Je regarde mes notes. Mais si vous avez des questions, vous pouvez vous exprimer peut-être dans le chat écrit.
Oui, j'ai répondu à une question. C'est vrai qu'on cite souvent qu'un seul partenaire de Spring, même moi. Il n'y a pas que Wikimedia France. Donc il y a Creative Commons France, le CLIC et InnoCube. Et c'est vrai qu'il a été pensé pour les GLAM. Hein, Xavier Caillot est notre responsable GLAM chez Wikimedia France. Moi, ça m'a surpris hein, que les universités candidates. C'est vrai que ça va de soi, mais il n'a pas été pensé pour ça au départ. D'où les questions et les partenaires sont surtout orientés GLAM, donc culture hein. Voilà. Et sachant il n'y a pas l'April et tout ça parce qu'il y a un autre prix je sais pas si c'est un prix ou un label spécifique pour le logiciel libre un ou plusieurs enfin il y en a un au moins pour les collectivités territoriales je crois qui reconnaît un peu les efforts. Et, enfin, voilà, enfin, le logiciel libre était déjà bien couvert, et par contre, tous ces efforts de contenu libre méritaient un prix et n'étaient pas jusqu'à présent valorisés. D'où la création de ce label, qui est encore très jeune, hein, il a juste un an, donc c'est vrai qu'il va évoluer très fortement s'il perdure dans les prochaines années.
On voit déjà, avec ces candidatures et avec la discussion qu'on vient d'avoir, on voit déjà qu'il y a des corrections ou des clarifications du périmètre du label qui entre l'intention qui est large et le vocabulaire dans les documents qui est un peu plus restreint et un peu trop Wikimedia France. Il y a des ajustements à faire déjà dans cette direction-là. Ensuite, dans les acteurs, on peut être un peu plus explicite pour inclure les universités. Je pense qu'il va y avoir des itérations. Je ne sais pas quel est le niveau de réactivité du côté de Wikimedia France par rapport à ça. Est-ce qu'ils vont. Parce que une des limitations de Wikimedia France, c'est que par nature, Wikimedia France gère des douzaines de projets. Donc, quand nous, on voit que le label Culture Libre, en fait, eux, ils ont des douzaines de projets à gérer. Donc, ils peuvent être limités en ressources humaines sur le projet avec lequel vous interagissez. J'ai fait remonter, par exemple, les remarques qu'on vient de faire, et j'ai proposé de corriger un petit peu les textes, les tournures, les choses comme ça. Ça n'a pas été repris dans l'immédiat. Donc, j'espère que ce sera repris, un de ces quatre. En tout cas, je pense qu'il va y avoir des versions. Pour cette labellisation et pour ces documents le cadre n'est pas encore défini clairement pendant les premières années et puis ça va se stabiliser au bout de la troisième, quelque chose comme ça à mon avis.
Après, il y a un point du coup qu'on n'a pas évoqué auquel je pense là, c'est la question du niveau de l'entité qui est labellisée. A priori, et ça peut être une des problématiques, c'est qu'on ne peut pas labelliser la bibliothèque. C'est vraiment l'institution englobante de moi ce que j'avais compris l'an dernier, vous me corrigerez peut-être. Donc c'est l'université qui doit candidater. Et auquel cas, pour les questions politiques, ça peut être plus compliqué qu'en effet juste aller voir son directeur de service et dire, tiens, il y a ça, et un directeur de service SCD, donc commun de documentation, qui lui a plus peut-être cette casquette GLAM, sera peut-être plus réceptif, mais c'est au-dessus que ça doit se jouer, d'après ce que j'avais retenu.
Alors, je concorde avec toi par rapport à cette observation. De notre côté, de la même manière, on a eu à peu près les mêmes échos, je pense. Et je pense, c'est pas moi qui ai géré ça, c'est ma chef. L'interaction au début pour la signature de la charte par l'université. Donc, c'est vraiment le président de l'université de Bordeaux, de Toulouse, pardon, le président de l'université de Toulouse qui a signé la charte du label Culture Libre. Ce qui m'a surpris, donc quand je suis arrivé et que on a envoyé la charte à faire signer, en fait, c'est monté, c'est monté, c'est monté jusqu'en haut. Ce qui m'a surpris parce que moi, mon périmètre d'action en termes de formation, je ne peux pas former 6 000 agents. C'est clair et net. Le label dit pourtant, l'institution internalise les pratiques de culture libre, donc de licence libre pour la génération de contenu, etc. Si c'est l'Université de Toulouse qui signe, ça devrait inclure toute la pyramide. Et en fait, moi, je suis qu'une petite branche de la pyramide, mais la charte a été validée par la présidente. Et nous, on va dans la candidature préciser que le périmètre de notre candidature, c'est notre service dans l'Université de Toulouse. Alors, j'ai pas très bien compris du côté Wikimedia France comment ils font ça. Alors, peut-être que c'est plus pour de la diplomatie, entre guillemets, de réussir à faire bouger les institutions au plus haut niveau qui font remonter la charte. Mais dans la pratique, il y a un distinguo entre la charte qui est signée par l'université, le label qui va être reçu par l'université, mais qui en fait ne reconnaît, ne juge que de la compliance, je ne trouve pas le terme français, mais
La conformité,
de
hein.
la voilà la conformité d'un seul service de l'université. Donc mon service, c'est à peu près 80 personnes sur une université qui a plusieurs milliers d'agents. Par contre, c'est un service particulièrement important en termes de contenu potentiellement libre, vu que c'est le service le service de documentation de l'université, le service intersite de documentation de Toulouse. Donc, on candidate pour ce service, mais c'est la présidence de l'université de Toulouse qui signe. Donc ça, c'est quelque chose qui est un petit peu ambigu pour nous tous, je pense. Et ensuite, je voulais vous partager quelque chose, mais j'ai perdu un peu le fil de mes pensées avec ça. Ah oui, aussi. En fait, ce qui est intéressant aussi, pourquoi on arrive à monter autant? C'est-à-dire pas juste avec le directeur de mon service ou la directrice d'ailleurs, mais plutôt avec la direction de mon université. C'est parce qu'on est, ça, je pense que la plupart des gens ici en sont conscients. On est dans une dynamique depuis 2018 avec le premier plan national de sciences ouvertes, puis le second plan national de sciences ouvertes, ainsi qu'avec il y a l'UNESCO également, un petit peu avant, qui a fait sa recommandation, UNESCO Recommendation on Open Science. Donc, on a des documents cadres au niveau mondial, UNESCO. Donc la culture au niveau mondial, au niveau européen, au niveau national. Maintenant, on a des documents cadres qui encouragent toutes nos institutions, que ce soit les institutions de documentation, bibliothèques, archives, etc., ou les institutions scientifiques, universités, à migrer vers des licences libres et des pratiques plus libres de libre circulation des contenus. Donc dans ce cadre-là, et avec en plus l'Agence nationale de recherche, je ne sais plus comment ça s'appelle aujourd'hui, mais il y a des évaluations concrètes des institutions qui maintenant incluent dans leurs critères la production de vulgarisation scientifique, de contenu sous licence libre, de sciences ouvertes, donc de publications académiques sous licence libre, etc. Vu que ça fait partie des métriques, on se retrouve en direction, donc la direction de l'Université de Toulouse ou les autres directions, se retrouve en recherche en fait de leviers pour faire migrer leurs équipes et pour faire avancer leur équipe vers ces compétences qui sont évaluées par les institutions et les organismes évaluateurs. Donc, quand on fait remonter la charte du label culture libre, on arrive en terrain un peu conquis. Je reste prudent par rapport à ça parce qu'il faut quand même que chaque individu soit un peu sensibilisé à ça. Et il me semble qu'on a eu un changement de présidence au sein de mon université. La présidence précédente était OK, let's go pour les sciences ouvertes. La nouvelle présidence qui est entrée en fonction il y a 4 mois, la science ouverte, c'est pas une priorité. Donc ça dépend des personnes aussi. Il y a une dynamique de fond au niveau national, européen et mondial qui nous souffle du vent dans nos voiles, mais ça reste encore des problématiques d'individus et des problématiques de politique de l'institution. C'était je rebondissais sur le fait que la charte a été envoyée tout en haut dans l'université. Quelles autres questions? Moi, j'ai peut-être. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur le label culture libre? Je laisse un peu de temps. Mais après, sinon, j'ai d'autres questions sur les ANR. J'ai d'autres questions par rapport à ton projet de mise en ligne de documents scannés. À un moment, il me semble, si on quitte le sujet des labels culture libre, il y a une question que je voudrais poser par rapport à ça. Il me semble que tu as parlé à un moment du fait que les bibliothèques scannaient leurs documents et les mettaient plus ou moins sous droit d'auteur. Il me semble avoir entendu le terme de copie fraude.
Ouais, c'était ce qu'on utilisait comme terme, enfin on l'utilise encore, c'est voilà la fraude au
Je ne
copyright
connaissais pas.
finalement. Ah, je croyais que c'était un terme acté.
Non,
Ok.
je suis pas autant dans le domaine
Ouais.
bibliothécaire que toi,
Donc
donc.
non, c'est ça, c'était pour dénoncer un petit peu ce qu'avaient les tendances à faire les bibliothèques, à dire c'est du document du domaine public, mais on les a scannés, donc maintenant on en est propriétaire, et si vous voulez les réutiliser, c'est licence commerciale, licence d'usage, etc. Donc ça avait été regroupé sous le terme de copy fraud à l'époque. Et voilà. Et c'était quand même, voilà, c'était quelque chose qui était plus ou moins commun. Et en 2012, quand nous, on a lancé notre bibliothèque numérique, à l'époque, je n'avais pas bataillé, mais en tout cas, il avait fallu que je négocie avec la direction des bibliothèques pour faire enlever des clauses qu'on m'avait demandé d'ajouter, de dire nous contacter pour tout usage commercial, etc. Parce que la problématique qu'on a aussi, c'est que de toute façon, derrière, on n'a pas les épaules pour gérer des formulaires de cession de droit, etc. En tout cas, on aurait passé un temps qui aurait été disproportionné par rapport aux quelques euros qu'on aurait pu gagner et qui n'auraient même pas été légitimes de toute façon. Donc ça s'est passé. Mais voilà, il y a plein d'établissements à l'époque, alors c'est moins le cas aujourd'hui, mais ça continue encore à exister, qui revendiquaient des droits sur des documents dont ils n'étaient pas titulaires, bien entendu.
On oublie aussi, c'est quelque chose que je fais lors de mes ateliers, on oublie en fait le réalisme économique, j'ai envie de dire, des licences libres. C'est-à-dire que, par exemple, exactement le même cas que ce que tu décris, l'institution qui scanne et qui essaye de garder les droits d'auteur sur ce travail scanné, je suis donc dans la démarche de labellisation, je rencontre différentes équipes, notamment. Maintenant, il y a certains musées de Toulouse qui nous ont contactés, qui nous ont dit oui, ce label, ça nous intéresse, etc. L'institution est intéressée par ce label, parce que pour des raisons de métrique et d'évaluation et de dynamique vers les licences libres. Mais les individus, il y a un peu de tout. Donc il y a, par exemple, je pense à une documentaliste qui, dès qu'on parle de mettre le travail de l'institution sous licence libre, ça commence à freiner. Donc elle est sur la défensive, elle a pas envie de, elle a peur en fait de se faire spolier son travail, voler son travail. Alors, par exemple, elle m'a cité, oui, si on met notre travail sur Wikimedia Commons, c'est qu'en fait les gens utilisent notre travail et nous citent pas. Alors oui, ça arrive, mais c'est extrêmement minoritaire. On est trois ici à avoir été Wikipédien pendant 2 décennies quasiment complètes. On a tous croisé quelques cas où il y a des réutilisations qui ne citent pas la Creative Commons, mais c'est quand même rare. Et quand on envoie une mail, c'est plus de la confusion à comment utiliser la citation, comment citer une image qui est réutilisée. que réellement de la mauvaise volonté. C'est plus de la fainéantise, j'ai envie de dire, que de la mauvaise de l'escroquerie. Et une fois qu'on explique, ils font OK, c'est bon. La dernière fois, je ne l'ai pas géré parce que je n'avais pas le temps. On leur explique, vous avez à citer ça, ça, ça. Donc, le titre de l'image, Wikimedia Commons, ou le titre de l'image, la licence et l'auteur. Donc, comme ça, avec une recherche Google, on arrive à retrouver le document. Les Wikimedia, on est assez tolérant aussi sur le lien. Normalement, il faut mettre un lien vers la photo de Wikimedia Commons, mais on peut être un peu tolérant sur certains éléments. Et donc souvent, c'est plus de l'incompréhension des réutilisateurs qui ne savent pas comment citer que de la malveillance. Mais les documentalistes ont quand même cette peur et il faut les rassurer et aussi faire de la pédagogie par rapport au fait que ces documents, de toute façon, les scans de documents anciens sont sous domaine public. On n'apporte pas de valeur ajoutée quand on fait juste un scan d'un document en 2D. Ensuite, il faut aussi le réalisme économique tu parlais et que j'aimerais aborder. C'est du côté Wikimédien, et c'est ce que je dis à la fois aux chercheurs et aux documentalistes, du côté des Wikimédiens, quand on a vu la panoplie des Creative Commons, donc il y a les Creative Commons non commerciales ou non dérivables. Et en fait, ça aurait pu nous intéresser. Comme ça, les gens viendraient toujours sur Wikipédia et ne pourraient pas réutiliser nos contenus ailleurs ou faire de l'argent avec. Ils devraient tout le temps nous demander, nous faire un don. On aurait pu faire des modèles alternatifs. Mais en fait, l'éditeur qui copie un article Wikipédia, qui le met dans un livre, qui publie un livre, donc qui fait du travail éditorial, qui fait du travail d'imprimeur, qui fait du travail de logistique en envoyant ses livres en Savoie ou ailleurs. En fait, tout ça, c'est des services gratuits qui sont offerts aux auteurs de Wikipédia. Nos écrits sont diffusés de manière plus large, de manière physique, matérielle, avec une logistique, une expertise que nous n'avons pas en interne, et nous n'avons pas à payer pour cette diffusion. C'est génial. Je ne sais pas si vous suivez mon raisonnement, mais moi, en tant qu'auteur sur mes articles de Wikipédia, je trouve génial qu'il y ait des entreprises qui récupèrent ces documents et qui les envoient à des endroits où je ne suis pas capable d'envoyer mes écrits. Donc, je trouve que même en termes économiques, on obtient un service gratuit. Donc, j'essaye d'argumenter dans ce sens auprès des chercheurs et auprès des documentalistes. On n'a pas la capacité de gestion, d'impression, de logistique et d'envoi de nos scans de manière physique. Donc autant permettre aux autres de le faire tout seul sans avoir à chaque fois à gérer un email d'autorisation.
Peut-être lire la question de Delphine Montagne. Si une institution, enfin quelqu'un au sein de l'institution veut faire un petit bilan, savoir où se place son institution, est-ce que vous avez des conseils? Est-ce qu'il y a une grille dans la documentation du label?
Alors, je peux te proposer même quelque chose d'un peu plus concret, en particulier pour les Wikimédias. Je vais te le mettre en discussion. Donc, en fait, une petite plainte aussi que je pourrais avoir par rapport à Wikimédia France, c'est qu'ils travaillent beaucoup sur leur site et ils oublient d'être vraiment interfacés correctement avec Wikipédia. Donc, toutes leurs grilles sont dans des PDF, dans des fichiers Word ou en ligne, sur des pages web, et c'est pas très pratique pour un Wikipédien qui vient copier ça. Il y a aussi quelques fichiers, par exemple le dossier de candidature. C'est un dossier qu'on est censé demander, qui n'est pas en accès sur Commons. On ne peut pas le télécharger, on ne peut pas le consulter. Il faut le demander. Il faut le demander et après attendre qu'il nous soit envoyé. Dans mon cas, ça a mis longtemps parce qu'en fait, j'ai demandé juste après la labellisation des équipes de 2023, des candidats de 2023, j'ai demandé à pouvoir consulter ce dossier pour préparer bien. J'étais 10 mois en avance comparé à la candidature. Et donc, en fait, ça a freiné. Et la raison de ce frein, c'est qu'ils ont prévu de mettre à jour ce document. Donc, ils ne voulaient pas que j'accède à la version 2023, alors qu'ils vont sortir la version 2024 en octobre. Mais moi, j'ai besoin d'avancer. Donc, ça m'a freiné, et j'ai mis plusieurs mois à obtenir ce document. Une meilleure approche, à mon avis, en tant que, avec mon biais wikipédien et en étant un peu plus sur le terrain, tous ces documents pourraient être sur Wikipédia ou sur Commons. Je pense que si bien tu préférerais que ce soit sur Commons ou Meta ou je ne sais pas, mais en libre accès réel. Également, tous les documents qu'ils envoient ou les pages web. Alors, les pages web, je crois que le site web est par défaut sous Creative Commons, CC BY SA. Mais quand on reçoit un PDF qui n'a pas de copyright, ben en fait, techniquement, c'est copyrighté. Bref, il y a des petits ajustements à faire de ce côté-là, et la grille d'évaluation existe donc sur le site web et dans des PDF. Mais ce que je te propose, et c'est ce que je colle désormais dans la discussion, c'est que j'ai porté cette grille sur Wikipédia. Bon, il faudra reconstituer le lien est un peu cassé, mais vous devriez pouvoir le reconstituer. Et donc tu as dans cette page qui est ma page de travail, tu cliques, tu supprimes les colonnes que j'ai remplies et tu peux répondre pour ta propre institution. Ça me sert également. Je vais essayer de. Est-ce que ça passe si je fais ça? Non, ça passe pas. Yes. Bon. Et si vous examinez cette page, vous pouvez voir que je me suis recréé la grille de lecture. Et d'un côté, j'ai les critères, de l'autre, j'ai mes réponses sourcées. Donc, tu supprimes la colonne de droite et tu vérifies que ton institution respecte ces champs dans le tableau. Voilà. Est-ce que ça répond à ta question, Delphine? Ok, super. Alors après, ah oui, on a quelques minutes. Est-ce que je peux te demander, si Mac, on peut, je voudrais te demander, on a aussi légèrement abordé, vu que je te connais aussi par la Cubale, entre guillemets, ou l'ancêtre, de discuter d'une communauté locale. Qu'est-ce que tu penses de la Cubale sur 20 ans, dans le sens, comment on a monté ça, ou comment tu as monté ça? Parce que j'ai à certains moments, mais j'étais pas forcément en monteur de communauté. Il me semble que tu as monté ça et que c'est toi qui as fait prendre le truc dans les années 2012.
De mémoire, c'était même avant ça. En fait, le point de départ, c'était quelque chose qui à l'époque s'appelait Opération Libre. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui vous parle. C'était des actions qui étaient menées dans différentes communes. Donc, il y en avait une qui avait été menée à Broca dans les Landes. Donc, je ne sais pas pourquoi j'ai 2009 en tête, mais ça doit être un peu après peut-être. Et c'est là qu'on s'était rencontrés avec Capucine à l'époque, et on avait commencé à échanger en se rendant compte qu'on était bordelais, et après regrouper un petit peu plus largement d'autres contributeurs. Après, ce qui a surtout permis de faire perdurer les choses et avancer les choses, c'est que l'équipe s'est renouvelée et qu'on a d'autres gens qui sont arrivés et qui n'étaient pas forcément dans le groupe de départ. Et donc, ça a permis que le groupe continue à exister, à vivre et à faire des choses en local de manière intéressante, y compris quand certains sont partis. Donc Bordeaux, comme tout un tas d'autres villes, c'est une ville universitaire. Donc on a eu pas mal d'étudiants qui étaient là au début, qui sont partis ailleurs suite à leurs études. Et aujourd'hui, on a un petit noyau dur de gens qui sont là depuis quelques années et qui permettent de faire vivre les choses. Donc on se retrouve, on a la chance d'avoir monté un partenariat avec la biothèque municipale qui nous accueille une fois par mois, un samedi matin. Et alors, quand je parle de gens qui se quittent un peu le groupe, c'est typiquement moi. Ça peut être voilà, lié à l'arrivée d'enfants, moins disponible pour être dans ce genre d'action. Et j'y suis retourné un peu plus cette année. Et on voit qu'il y a plein de gens qui sont arrivés parce que voilà, le fait d'être en lien avec une bibliothèque et donc d'avoir des actions régulières, ça a permis de fédérer au sein du groupe des gens qui n'étaient pas forcément wikipédiens au départ. En fait, le départ du groupe, il s'est constitué avec des gens qui étaient déjà Wikipédiens et qui se sont retrouvés. Et maintenant, le groupe est venu s'agréger au groupe des gens qui viennent une fois par mois le samedi matin à la bibliothèque, qui contribuent et qui, à côté de ça, sont pas forcément impliqués énormément dans Wikipédia, vont pas aller travailler sur les pages communautaires de Wikipédia, suivre des discussions. Ils viennent, ils travaillent sur un article et au fil des mois, ils continuent à travailler sur cet article. Donc, ils font partie de ce groupe, mais sans tout l'aspect méta et autour discussion, etc. Donc, ça a un peu évolué et aujourd'hui, le groupe qui était finalement un groupe de Wikipédiens informels au départ est devenu plutôt un groupe de gens qui viennent pour contribuer à Wikipédia et se retrouver sur ces sujets-là. Mais c'est moins un noyau dur de Wikipédia comme il y avait pu y avoir au départ, on va dire.
Et pour faire l'évolution de cette communauté sur un temps, sur 15 ans, voire 20 ans, les premiers événements Wikipédia ont eu lieu à Bordeaux vers 2005-2006, ces eaux-là. Mais c'était à chaque fois des initiatives très ponctuelles. Donc il n'y avait pas de communauté, il y avait juste des initiatives ponctuelles. Il y a eu les tiennes, il y a eu XFIG Power, j'en ai fait quelques-unes, mais on n'était pas vraiment coordonnés. Et si on était coordonnés, c'était un café par an, quoi, ou un événement par an où on se croisait, c'était pas suffisant. Et moi, de ce que j'ai vu, donc je suis parti pour les études, il me semble que ça s'est arrêté pendant quelques années. Ensuite, ça a repris avec ta dynamique. Ça, avec un nouveau noyau dur d'étudiants wikipédiens, il y a eu des retraités qui sont arrivés, il me semble.
C'est ça, en
Plusieurs
fait,
retraités.
là, je reprends les dates. En fait, il y a eu un événement qui a été assez fédérateur. C'est en 2014, on a fait une journée qu'on avait menée. Alors déjà, on se réunissait régulièrement à cette époque. Et en 2014, on a fait un projet avec la mairie où on a mené une action sur un week-end dans l'ensemble des musées de la ville avec contributions, les équipes des musées, etc. Donc là, c'était vraiment. Alors ça nous avait demandé beaucoup de temps de préparation, de coordination avec les musées, avec les équipes des musées, etc. Mais ça a permis, voilà, d'avoir un événement fédérateur. Et il y a des gens qui sont devenus Wikipédiens à ce moment-là, enfin, qui nous ont rejoints, découverts à ce moment-là, et qui après ont été des acteurs majeurs de la vie bordelaise wikipédienne pendant plusieurs années, et des retraités aussi, comme tu dis, qui du coup ont une autre disponibilité, et ça a permis de faire des choses, y compris en journée dans des collèges ou des choses comme ça, donc c'était assez intéressant aussi. Hein.
Voilà, on avait CCDI.
Tout à fait, qui est toujours
CCDI.
actif.
On a aussi Annie.
Annie Lesca, qui nous avait rejoint justement à l'occasion du Wikiday, et donc qui est
Ah,
décédée depuis, mais qui nous avait rejoint à l'occasion du Wikiday. Et là, voilà, on l'avait formée à cette occasion-là, on l'avait revue après, et c'était devenu une contributrice assez dynamique et qui avait fait beaucoup de choses sur
avec.
le projet.
Et elle avait un profil, il me semble que c'était une ancienne chercheuse.
Elle était prof, c'est ça, ouais.
Elle est prof et elle s'était mise à faire les ateliers dans des collèges
Exactement, elle les a fait.
avec Edouard d'ailleurs. Donc il y avait un jeune informaticien et cette retraitée qui était dynamique. Voilà. Et il me semble aussi que la dynamique du groupe, c'était les retraités qui coordonnaient un petit peu tout. Il y avait aussi quelqu'un qui avait 55 ans, je ne me souviens plus de son nom, à peu près, qui a été très actif à une époque.
Ah bah si, c'était Franck,
Voilà.
sûrement. Franck,
Voilà, oui, c'est
Franck est
Franck.
très actif, oui, en effet. Ouais.
Voilà, donc il y avait par rapport à la communauté bordelaise, je voulais faire un petit détour vu que Sylvain et moi nous sommes bordelais, sur l'historique de cette communauté, avec aussi la conscience qu'une communauté, dans le temps, elle se dissout, elle se reconstruit, c'est normal. Et la complémentarité des profils entre retraités et jeunes informaticiens, c'est un grand classique également. Donc voilà. C'était des éléments qui me semblaient intéressants d'aborder, tant qu'on avait un invité de Bordeaux, que je vais remercier d'ailleurs, vu qu'il commence, on a dépassé, il est maintenant 14 h 01. Donc je ne sais pas si vous avez d'autres interventions à faire ou d'autres questions à poser dans le public ou.
Merci beaucoup pour cette discussion très intéressante. Et merci Sylvain, du coup, d'avoir accepté de participer aujourd'hui.
De rien. Merci
Et
pour
je
l'invitation.
voulais juste donner les dates, du coup, les prochaines échéances pour nous. Donc le prochain Wikicafé, c'est mardi dans 15 jours. Et la prochaine fois qu'on reçoit un intervenant, ce sera donc le 17 octobre. Et on recevra Alexandre Hoquet, qui nous fera du coup un retour sur sa pratique en tant qu'historien des sciences avec Wikipédia. Donc le prochain Wikicafé sous format intervention, ce sera le 17 octobre. Voilà.
Ok, est-ce que je peux prendre une photo de tout le monde?
Bien sûr.
Allez, c'est parti. 1, 2, 3. Allez, ça nous fera un document support pour mentionner les Wiki Café. Mais merci à tous. On va fermer le chat, la visio. Ah,
Merci.
quelqu'un d'autre veut allumer sa caméra? Ok. Ok. C'est bon. Dans 5 secondes. 3, 2, 1. Allez, c'est parti. Merci.
Merci à tous.
Bonne journée.
Merci.